Bonjour à tous et bienvenue dans notre 7ème émission du Porncast, le premier podcast français à parler de porno entre potes et garanti sans vulgarité. Au sommaire de cette 7ème émission, nous allons parler dans les news du Feminist Porn Awards 2015 que EO va nous présenter, et moi pour ma part je vous parlerai d'un petit clip qui casse un peu les tabous à sa manière. Nous passerons ensuite à notre cœur de sujet et aujourd'hui nous allons sortir des sentiers battus et nous allons voir ce qui se passe dans le porn lorsqu'on sort du porn qu'on appelle le mainstream. Et enfin, dans la case de l'oncle porn, on se permettra de vous conseiller quelques films pour le mois à venir. Mais pour cette émission, je ne suis bien évidemment pas seul. Je suis accompagné d'Eo.
Salut !
Et ce mois-ci, nous avons un invité, ou plutôt une invitée, Sarah de Vicomte, du site barbiturix.com. Salut !
Salut !
Tout de suite, on tarde pas, on se lance direct, hein, on lance dans la news. Eo, tu voulais nous parler du Feminist Porn Award 2015. Qu'as-tu à nous dire sur ça ?
Et donc le Feminist Porn Awards 2015, qui a eu lieu le 15, 16 et 17 avril à Toronto, et qui récompense les sites, les films, les réalisateurs, les documentaires, et toutes sortes de formes de pornographie, mais surtout féministes, comme son nom l'indique. Donc il y a plusieurs catégories assez diverses, comme le boygasme, ça m'a fait beaucoup marrer quand j'ai regardé sur le site, la meilleure scène avec un orgasme masculin, des récompenses aussi comme pour les meilleurs films BDSM, pour les meilleurs documentaires, pour des films à teneur éducative, pour le kink. J'ai cherché il y a pas longtemps ce que ça voulait dire kink, parce que ça me parlait pas du tout comme terme.
Mais c'est kink, quoi finalement ?
Kink, au final, c'est ce qui sort de la norme sexuelle, on va dire, c'est stéréotypé. Et c'est tout, pour moi, c'est une sorte d'ensemble de fétiches qui ne sont pas du BDSM, ni du sexe normal papa-maman. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Sarah ? Tu es d'accord avec moi pour kink ?
Ouais, je pense que je suis assez d'accord, ouais. Je connais pas la définition exacte de kink porn, mais il me semble que c'est un truc qui sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, quoi.
Mais on s'écarte là. Je parlais des différentes catégories. On n'oublie pas le porn lesbien. On récompense la star la plus sexy, le film de l'année ou les réalisateurs. Cocorico, cette année, c'est Ovidie qui a gagné cette récompense.
Mais avec son film. Elle a tout remporté sur les anciennes. Ça, tu nous en parlais dans les autres émissions, mais elle a eu des récompenses sur les autres Feminist Porn Award, enfin sur les autres festivals.
Elle a eu une récompense l'année dernière, en 2014, pour son film Liberté sexuelle.
Oui, voilà.
C'est ça. On n'oublie pas le trans, tous les films trans, qui justement, grâce au Feminist Porn Award, tout ce qui est trans, queer, et les films qui sortent un peu de l'image hétérocentrée de ce que peut faire le porn mainstream, sont récompensés aussi. Moi, j'ai entendu parler de ce qui s'était passé au Feminist Porn Awards 2015 grâce au site internet Entre Cuir et Dentelle. Donc, qui propose un résumé assez sympa des critères qui ont permis de récompenser les différents intervenants, qui résume les nominés, les récompensés, et aussi, petit bonus, qui met les trailers de pas mal de films qui étaient en compétition et qui étaient nominés. Et donc, j'en ai profité pour regarder un peu. Et il y a quelques films qui m'ont tapé dans l'œil, dont Between the Headlines, un film de Lily Cade, un film lesbien, où tu as Hillary Clinton, jouée par Nina Hartley, qui dans le trailer... On roule une belle pelle bien comme il faut à Michelle Obama.
Ah, trop bien.
Et juste pour le truc, moi ça m'a fait kiffer, j'ai eu envie de voir le film.
Ouais, le gros fantasme Hillary Clinton.
C'est vrai ?
Bah quand même, elle dégage un truc lesbien en plus, donc...
Ah carrément !
Ouais, je suis sûre qu'elle est un peu bi sur les bords au moins.
Sinon, il y avait Lucy Blush, bon, qui est toujours présente dans ce genre de récompense. On entend de plus en plus parler d'elle. Donc avec son film Don't Touch Me, dont le trailer était super beau, super efficace. Ça m'a vraiment donné envie de voir le film. Et je vous conseille d'aller faire un tour sur le site Entre Cuir et Dentelle pour vous faire un avis vous-même. Allez regarder les trailers. Et n'hésitez pas non plus à aller sur la page du Feminist Porn Award 2015 et voir l'ensemble des films récompensés.
Pour le coup, là, quand tu parles des critères qui ont permis de récompenser les films, je trouve ça vraiment cool. C'est un truc qui manque souvent dans les récompenses, c'est savoir qu'est-ce qui a poussé ce film plutôt qu'un autre. Pour le coup, là, c'est plutôt sympa d'avoir une véritable valeur ajoutée là-dessus.
Du coup, oui, les critères sont clairement explicités sur le site. Et donc, on peut dire, en regardant les films, si on considère que la récompense est méritée ou pas. C'est quelque chose qui ne se fait pas, par exemple, au niveau de Cannes et des Palmes d'Or.
Pour les AVN, c'est un peu la même chose, au final. Clairement, on a des récompenses. Bon, les nominés, on le voit, il y a des catégories quasi infinies maintenant, mais il y a énormément de récompenses. Mais pour le coup, on ne sait pas qu'est-ce qui a poussé ce film-là plutôt qu'un autre. Donc c'est pour ça que la dernière fois qu'on en parlait, je lui disais que c'était du gros fric, parce que Bonnie Rotten n'avait rien eu, par exemple.
Ah oui, mais ça c'est parce que c'est ta chérie, Bonnie Rotten.
Oui, parce que je suis amer, c'est pour ça.
Oui, tu es amer.
Moi, je voulais vous parler, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai chopé ça sur le site de Combini.com. Alors, je ne connaissais pas le chanteur, mais Adonovsky, je ne sais pas comment on le dit en tout cas, c'est un chanteur assez connu qui a sorti une chanson qui s'appelle Would You Be Mine. Son clip, oui, j'ai un accent de merde, je le sais. Il a fait son clip il n'y a pas très longtemps, et pour ce clip, le salaud, parce que je vais l'appeler vraiment un salaud, s'est offert Stoya. Dans le clip, donc il a une relation sexuelle avec Stoya dans son clip. Le clip est sur YouTube, hein, donc il est totalement safe for work, mais il est assez beau, à la fois dérangeant et extrêmement sensuel. On voit pas de pénétration, ça reste plus du côté film de M6 pour le côté érotique de la chose.
D'accord.
Mais c'est, on y voit Stoya en gros plan dans tous les sens. Pour le coup, c'est une femme qui est vraiment superbe. Donc ouais, je conseille de regarder déjà le clip pour vous faire une idée du truc.
T'avais pas l'air d'accord, Sarah.
Ah, si, d'accord. Femme moi, superbe. J'adore Stoya, donc.
Elle est superbe. Elle a une peau de lait qui est fantastique.
Ouais.
Et pour le coup, le chanteur sur le site du Combini, on mettra le lien sur le site, donne une interview en fait du truc et on lui donne, le gars lui demande pourquoi avoir eu cette vision du clip au final. Et en fait, le gars explique qu'il avait vu Stoya sur une ancienne vidéo qui doit dater d'avoir 2 ou 3 ans, où elle est en train de lire un livre avec un vibromasseur placé dans sa partie intime. Et en fait, elle doit lire le passage en ayant de plus en plus de plaisir. Et au final, elle est obligée de s'arrêter parce qu'elle a un orgasme. Il a vu là-dessus et il s'est dit c'est elle que je veux. Et du coup, il détaille un petit peu sa vision du sexe dans le général, du porno aussi. Et il a une vision vraiment sans tabou de la chose, quoi. Et c'est tellement sans tabou que c'est son père qui a réalisé le clip.
Ah ouais,
wow.
C'est à tel point en fait d'expliquer que lui, les parents qui doivent dire à leurs enfants, écoute, aujourd'hui on va te parler de sexe, il comprend pas. Ça doit être quelque chose qui vient naturellement, ça doit pas être une étape obligée dans la vie des gens. En fait, c'est un côté vachement.
Imagine-toi dire à ton père, ça te dérange pas de me filmer avec ma copine en train de faire l'amour?
C'est exactement ça. Son père est un réal aussi assez connu. Assez avant-gardiste à son époque. Et pour le coup, moi je trouve ça vraiment génial. J'ai vraiment adoré le clip. La chanson, c'est pas mon truc. Ce type de musique, c'est pas du tout mon genre. Mais pour le coup, le clip est vraiment vraiment super beau. Toute l'histoire qui va avec est fantastique. Et puis Stoya, voilà, c'est tout.
Ok, du coup, les news sont passées, on va pouvoir passer au cœur de sujet. Et voix mystérieuse qui rigole et qui nous écoute nous dépêtrer avec nos news. Qui es-tu et que fais-tu, Sarah?
Je m'appelle Sarah, mon pseudo, mon nom connu sur les réseaux sociaux, c'est Sarah Vicomte, qui n'est pas mon vrai nom, parce que sinon j'aurais beaucoup plus de thunes, ou en tout cas, j'ai une super particule, mais en fait, elle est fausse. Mais quand même, Vicomte, j'imagine que c'est mon château, dès que je passe devant. Qui suis-je et que fais-je? En fait, j'écris depuis 2011, pour le site lesbien et féministe Barbiturix. Et ça s'est imposé à moi d'écrire des articles de cul, étant donné que c'était une des seules choses dont je savais parler et qui, en fait, me rend absolument curieuse sur tout. Et donc, j'ai commencé avec un article sur le clitoris et voilà, ça a commencé comme ça. Et donc, voilà, ça fait 4 ans maintenant que j'écris pour Barbiturix. Et à côté de ça, en fait, j'avais plus ou moins terminé un master de sociologie. En fait, je ne l'ai pas terminé, de genre à Paris 8. Mais je me suis rendu compte que je ne voulais pas faire de la recherche dans le porno, mais que je voulais en faire. Et donc, du coup, je m'y suis mise, en fait. Et j'ai tourné un premier film. C'est moi qui réalise, mais je joue pas dedans.
D'accord.
En tout cas, pas pour le moment. On sait jamais un jour. Mais... Donc, j'en ai réalisé un premier avec une amie à moi qui s'appelle Minsingui. C'est une performeuse qui est absolument géniale. Et que j'ai tourné l'été dernier, qui est encore en montage parce que j'ai une monteuse. Et j'en ai tourné un second avec elle et une autre fille, en fait, que je suis actuellement en train de monter. Et voilà, j'en suis à là pour le moment.
Ok.
Et je fais aussi un peu de photographie, mais je préfère la vidéo. Donc,
Et donc, tu dis que tu produis ton propre porno. Et quand tu parles de porno, c'est quoi comme type de réalisation? Quel genre tu pourrais donner à ce que tu fais?
Alors, moi, je considère que c'est du porno lesbien, parce que il y a 2 filles. Okay. Donc voilà, le porno que j'ai réalisé, il est lesbien. Mais après, c'est vrai que ma vision du porno, elle est enrichie par ma vision de la société en général. Donc du coup, comme je me qualifie de féministe pro-sexe, et notamment avec des idées en fait qui sont issues des études de queer, bah du coup, le film est lesbien, mais englobé en fait par mes idées féministes et queer.
D'accord.
Donc, ouais. Voilà.
Faudra nous prévenir quand tu auras fini de monter et que ce sera disponible.
Ouais, j'ai très hâte.
Ok.
Mais du coup, enfin, je rebondis dessus, mais tu le diffuses comment en termes d'édition ?
Alors,
tu fais ça toi-même ou...
Peut-être, je vais l'envoyer à des festivals. D'ailleurs, le premier festival auquel je vais l'envoyer, c'est un festival de cinéma queer qui est basé à Basel, en Suisse. Mm-hmm. Donc ouais, je vais commencer par le diffuser dans des festivals et en fait, je vais lancer un projet pour avoir des fonds en fait pour tourner la suite, parce qu'en fait ce porno c'est le début d'une série qui sera en fait sur les transports amoureux, donc en fait je vais parler surtout d'histoires amoureuses mais avec des scènes de cul dedans, tout simplement.
D'accord, donc le véritable amour en tant que tel.
Ouais, parce qu'en fait je trouve ça dommage que c'est soit rarement, enfin moi j'ai rarement le sentiment que ce soit vraiment romantique, sauf que pour moi le cul ça va avec, pas tout le temps, mais ça va avec l'amour en général, donc du coup dans la manière de filmer ou de montrer la chose c'est un peu différent et je trouve ça dommage d'exclure les deux, et j'aime bien l'histoire du corps qui va avec l'histoire du cœur. Enfin, pour moi, ça va un peu ensemble, en tout cas dans ma vie personnelle. Donc du coup, j'avais envie de faire des trucs qui sont assez autobiographiques. Et donc voilà, en fait, et je trouve que ça manque de narratif aussi dans le porno, ça manque d'émotions qui ne soient pas des émotions forcément sexuelles. Et j'avais envie de mêler tout ça, en fait, comme dans la vraie vie, en fait, tout simplement. Genre, tu te disputes avec quelqu'un, puis tu finis par baiser, ou tu romps avec quelqu'un, puis tu finis par faire l'amour.
Les mots.
Oh là là, laisse-moi
s'exprimer. Non, je suis sans vulgarité. Baiser, pour moi, c'est pas bien, donc il faut...
Ah bon ? C'est nickel,
ouais, je sais, je suis un peu pas coincé, mais je... Il y a des choses qui... Voilà. Le baiser, oui, mais on fait l'amour.
Ah bon, les deux sont possibles pour moi.
Mmh. Niquer, par contre, je trouve ça un peu plus vulgaire, bizarrement.
Je trouve ça encore plus vulgaire, ouais.
Ouais. Mais baiser, ça va. J'aime
et donc,
bien.
C'est un porno qui s'inscrit dans la vie, quoi. C'est quelque chose que tu pourras pas voir produit par des grands studios, par exemple, je sais pas moi, Elegant Angel ou.
Bon, on sait jamais, hein.
Ou Evil Angel ou des trucs comme ça.
On sait jamais, hein. Peut-être qu'à force de faire du porno. Qui est différent du porno mainstream, peut-être que ça va finir par entrer dans le porno mainstream et du coup il y aura une plus grande diversité et du coup les gens auront accès à ça, parce que les gens qui ont accès au genre de porno qui est queer ou féministe, c'est pas sur YouPorn, c'est pas sur ce genre de site et c'est pas non plus par les chaînes de production qui sont en général mainstream. Mais du coup si ça peut diversifier le porno mainstream, c'est déjà bien, parce que du coup les gens auront accès à des trucs qui sont différents, donc peut-être que ça va pouvoir changer les choses un peu.
Enfin, bah justement, venons-y au porno mainstream. Donc le cœur de sujet de cette émission, c'est « Y a-t-il une vie après le mainstream ?» Donc pourquoi ce titre ? Parce que ce qu'on trouve justement, comme tu l'as si bien désigné, sur les tubes en majorité, sur dès qu'on commence à chercher porn, ne serait-ce que taper porn dans Google, on va tomber sur YouPorn, sur Pornhub ou sur des tubes qui vont diffuser un contenu à majorité mainstream. Mais qu'est-ce que c'est le mainstream ? On n'arrête pas de parler de ça depuis tout à l'heure, mais quelle définition on pourrait donner à ça, d'après toi, Sarah ou Zef ?
D'après moi, le porno mainstream, en fait, c'est tout ce qui représente les sexualités hétéronormatives. Donc, que ce soit un porno dit lesbien ou les deux nanas se frottent un peu, puis il y a le mec qui débarque. Ça, c'est le gros cliché qu'on utilise à chaque fois.
Ouais,
clairement, ouais.
Et puis, souvent, c'est centré sur... En fait, c'est toujours la même chose. C'est des petits frottements, une sorte de ce qu'on appelle les préliminaires. Et puis, ensuite, ça termine à la fin par une éjac... du mec, et c'est genre l'éjaculation, ça sonne la fin en fait. Et souvent, le plaisir des femmes, il est très peu représenté, ou pas forcément bien représenté, puis aussi les conditions en fait dans lesquelles le film a pu être tourné ne sont pas forcément très, très féministes non plus, et puis parfois il n'y a pas le port obligatoire du préservatif, parfois les droits sur le plateau, enfin les droits des actrices et des acteurs ne sont pas vraiment respectés, enfin tout ça, ça rentre, je pense... Dans le porno mainstream. Après, moi, je connais pas vraiment le milieu du porno mainstream. En tout cas, c'est les impressions que j'en ai Et du coup, ça représente une sexualité qu'on voit déjà partout, en fait, qui est extrêmement normative et qui manque de diversité, en fait, tout simplement, je dirais.
J'avoue que sur la définition que j'avais glanée sur les internets, c'était resté quand même à un niveau très, très dictionnaire, c'est-à-dire la définition sur laquelle les gens s'entendent, c'est porno mainstream, c'est un porno issu de l'industrie, de la porn valley ou d'un ensemble de grosses boîtes. Donc, c'est tout ce qui n'est pas porno indépendant. Donc, c'est, je pense, à...
Non, je disais, c'est clairement ça dans l'esprit des gens aujourd'hui, puisque c'est ce qui est vu le plus souvent, en fait. Bah, oui. Comme disait Sarah, c'est aujourd'hui, c'est ce qu'on voit le plus souvent, c'est sur le net, c'est ce qui est le plus simple. Moi, si j'avais dû expliquer le mainstream, j'aurais parlé plus d'archétypes d'acteurs et d'actrices, en fait.
Oui, c'est
qu'on a, on a un typé enfin, l'archétype d'acteur, ça va être un mâle assez, assez bien musclé en général, ou très bien foutu, et surtout bien membré. C'est une actrice qui est typée classique, c'est-à-dire qu'elle est très maquillée, très belle, très très sophistiquée et qui est très lumineuse, j'ai envie de dire, parce que les scènes sont très très souvent bien filmées avec beaucoup de lumière et une belle lumière. Donc il y a un côté mainstream, ça paraît être fait toujours en plein jour et toujours être pas forcément beau dans la façon de le faire, mais au moins des positions effectivement des préliminaires et des positions qui s'enchaînent de façon quasi tout le temps les mêmes.
C'est une sexualité qui est assez, assez loin de notre vie de tous les jours, en définitive.
Complètement.
Ce qu'on voit dans le porno mainstream. C'est pour ça que dans notre choix de thème, on avait choisi ça. Parce que est-ce qu'il n'y a pas une alternative au porno mainstream qui est clairement pas représentatif de ce qu'on est et ce qu'on vit au quotidien, qui peut exciter, qui nous excite en définitive parce qu'on continue à le regarder, mais qui ne représente pas ce que la sexualité qu'on a quotidiennement, ou voire même exceptionnellement, mais on est très très loin de ça. Donc il y a d'autres choses qui se font, et que j'ai envie de dire que comme le bon vin ou la bière, on a toujours moyen de trouver quelque chose qui nous va bien, qui nous va à nous. Donc on va essayer de décrire d'autres grandes cases, d'autres grands genres de porno qui sont en dehors qui évoluent dans des sphères qui sont pas le mainstream. Et on va essayer de vous parler de ça et de vous donner envie. Par exemple, Zef, je sais qu'il y a un genre en dehors du porno mainstream qui t'intéressait et qui t'intéresse toujours particulièrement, c'est le alt-porn. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur le alt-porn ?
Eh ben, pas mal de choses, mais en fait, c'est marrant parce que quand on a préparé plus ou moins l'émission, je m'attendais pas à ce type de réaction, de discussion d'entrée de jeu, en fait, parce que, au final, je me rends compte que quand on parle de porno mainstream et qu'on se dit que c'est loin de chez nous et de notre vie de tous les jours, je me dis qu'en fait, pour moi, le alt porn, ça reste aussi très loin de chez moi, en fait, parce que c'est pas du tout, ça reste du fantasme, quoi qu'il arrive, dans les deux cas.
Pourtant, et ça reste produit par des indépendants.
Donc, du coup, l'alt porn, c'est quoi? Ben, en définition pure et dure Wikipédia, j'ai envie de dire, c'est un courant qui a émergé depuis les débuts des années 90. Comme une espèce de culture ou sous-culture alternative qui va regrouper en fait des modèles, donc par modèle j'entends acteurs et actrices, qui sont un peu hors normes, dans le sens où il y a visuellement plus de choses à voir sur leur corps, je vais le dire comme ça. Il y a énormément de tatous qui sont mis en avant, énormément de piercings, ça va être un côté plus punk, gothique et ainsi de suite. Enfin, je vais mettre le emo de côté parce que c'est un mot que je déteste, mais donc c'est un côté vraiment plus voilà, punk, rock, gothique. Le premier type de magazine du genre qui s'est revendiqué comme tel, c'est un magazine qui s'appelle Blue Blood, qui s'était lancé en 92, où il y avait beaucoup de modèles gothiques et un peu cyberpunk. Je reviens sur la définition cyberpunk.
Donc c'est quand même un phénomène relativement récent.
C'est extrêmement récent. Tout comme, enfin, disons que c'est dans les années 80, on l'a vu avec la musique dans l'émission dernière, ça a émergé un petit peu à travers la musique. Dans les années 80, on avait un côté vachement, vachement goth qui arrivait, en fait. Parce qu'on avait des trucs assez froids au niveau synthé et ainsi de suite. Donc, ça arrivait petit à petit. Effectivement, ça s'est lancé assez tard dans le milieu du porno, on va dire. Et bien évidemment, quand Internet est arrivé, bah, comme on l'a dit plusieurs fois, ça a explosé un peu dans tous les sens. Il y a beaucoup de sites qui sont restés plus ou moins éphémères. Il y a le site Gothic Sluts de Blue Blood qui, lui, s'ouvrira en 99 et qui est encore aujourd'hui ouvert. Qui pique un peu les yeux lorsqu'on le regarde, parce qu'il est très coloré.
C'est quoi, il clignote? C'est des trucs fuchsia qui clignotent en jaune poussin?
Non, il est très vert fluo, en fait. Ça fait très punk, encore une fois. C'est un côté vachement, vachement années 80, fluo. C'est bizarre. Moi, quand j'y vais, j'ai un peu mal aux yeux. J'ai du mal. Mais c'est perso.
Ça te dit quelque chose, toi, Sarah, tout ça?
Ouais, écoute, en 99, j'avais 13 ans, donc...
Moi, j'avais 5 ans, je vois pas où est le problème. Non, je déconne.
Je traînais pas vraiment sur Internet encore. J'avais peut-être vu des films érotiques à 13 ans, mais en tout cas, j'avais pas vu ça sur Internet.
C'est parce que tu voulais regarder Culture Pub, comme tout le monde.
J'ai jamais vu ça non plus.
Pour revenir sur l'alt porn, donc en fait, quand aujourd'hui on parle d'alt porn, on pense souvent, très souvent même, au Suicide Girl. Donc Suicide Girl, c'est un site qui ouvre en 2001, donc qui est finalement assez récent, qui a un vrai succès commercial, mais c'est un débordement commercial dans tous les sens, parce que c'est un des plus gros sites du genre alt porn aujourd'hui dans le monde. Hein, genre, Suicide Girl, c'est connu partout, on en voit de partout, c'est vendu dans tous les sens en termes de photos, magazines, tout ce qu'on veut. Donc Suicide Girl ouvre un espèce de chemin vers d'autres sites qui vont essayer de les suivre. Je pense directement à God's Girl, qui eux ont ouvert en 2008. God's Girl, c'est quoi? C'est comme Suicide Girl, c'est pas vraiment du porno. Parce que,
oui, c'est ce que j'allais te dire, parce que voilà. Pour moi, Suicide Girl, ça reste quelque chose de plus glamour, justement plus érotique. C'est des pin-ups pour moi, Suicide Girl.
C'est exactement ça. Ce sont des pin-ups, ce sont ce qu'on appelle des alt models. Alors, il y a Stoya, j'en parlais dans la news, elle faisait partie des God's Girl, et elle est sortie en fait de ça en devenant actrice porno derrière. Mais donc, les God's Girl et Suicide Girl, ça reste des pin-ups. Tout ce qu'on a en termes de communauté dans leur site, et je parle là surtout des God's Girl, c'est un espèce de site communautaire avec des espèces de blogging internes, il y a des espèces de photos qui sont prises au jour le jour. Il y a vraiment une espèce de communauté qui a été créée à l'intérieur pour que les gens qui s'inscrivent sur le site, et donc qui payent pour avoir leur contenu, aient une espèce d'attachement en fait avec les modèles en direct. C'est assez intéressant comme vision.
Je sais pas si toi aussi, Sarah, t'avais remarqué ça, mais par exemple sur les réseaux sociaux, moi j'ai découvert Suicide Girl vers je sais pas, 2008 ou 2009-2010. Mm-hmm. C'était déjà un peu tard après le phénomène, mais j'avais beaucoup de contacts qui se mettaient à suivre des Suicide Girls justement.
Sur Instagram ou sur Tumblr, tu peux en suivre quelques-unes, tu suis un peu leur vie, leurs interrogations et tout. Du coup, en fait, tu vois les modèles comme des personnes et plus comme des corps, en fait.
Ouais, c'est exactement ça. Et c'est le but, en fait, de ce genre de site, c'est vraiment la proximité, en fait, entre le modèle et le consommateur, appelons-le comme ça, pour qu'il y ait vraiment un lien qui se crée. Et après, sur le site, évidemment, tout va être payant, les moindres photos, les moindres trucs. Il y a des abonnements qui sont faits en général, enfin pour God's Girl en tout cas. Je rajoute juste ce petit truc sur God's Girl, parce qu'il y a un côté un peu plus alt ou plus underground, pour utiliser un autre terme, God's Girl, parce qu'il y a un petit côté fétiche aussi, dans le côté cuir, bondage, ce genre de choses. C'est un peu moins connu que Suicide Girl, mais c'est tout aussi cool. À choisir, j'irais plus sur God's Girl qu'autre chose, mais c'est mon appréciation tout à fait personnelle.
Ouais,
d'accord.
Découvert God's Girl il n'y a pas très longtemps via Vex, en fait, qui fait pour Chambers. Ouais. Mais Suicide Girl, ouais, je trouve ça un peu plus mainstream, parce que j'ai l'impression que...
Et on y vient, exactement.
Ouais,
je te remercie.
Les filles sur le site, bon après, moi j'estime qu'il y a aussi une sorte de norme sur Suicide Girl, parce que les filles en général se ressemblent, même si je ne les ai pas toutes vues. Il y a encore une sorte d'effet de normalisme. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais...
Bah, en fait, elle crée un archétype par elle-même, en fait.
Oui, exactement.
Au fur et à mesure.
Ça crée un archétype auquel je ne me sens pas correspondre non plus. Et puis aussi parce qu'en fait, je crois qu'il y a eu des problèmes internes dont je suis pas trop au courant, mais ça génère un tel fric et les filles sont pas si bien payées que ça. Donc déjà, ça aussi, ça le rend un peu plus mainstream dans sa façon d'être dans sa façon de fonctionner, en fait, qui est quand même beaucoup plus qui est complètement capitaliste, et j'imagine beaucoup plus que God's Girl, qui est tenue, je crois, par des femmes, mais je suis pas certaine.
Il me semble aussi, en fait, c'est resté un peu plus intimiste au niveau de God's Girl. Suicide Girl, il y a eu une expansion dans tous les sens. Il y a Suicide Girl France, il y a plein de choses. Enfin, du coup, les modèles sont partout à travers le monde. Et je pense qu'effectivement, ça doit créer un fric assez impressionnant.
Ouais, ouais.
Et quand ça devient trop connu, trop friqué, entre guillemets, ça devient, à mon sens, mainstream à tout bout de champ. Là, on est resté vraiment, encore une fois, dans le côté pin-up de la chose. On n'est pas encore rentré dans le vrai alt porn. Alors, je vais donner un exemple de vrai studio alt porn qui, pour moi, est fondateur, un petit peu, enfin, fédérateur même. Donc, Burning Angels, j'en ai déjà parlé plusieurs fois.
Ouais.
Voilà, créé en 2002 par Joanna Angel, donc qui est une actrice, productrice et réalisatrice de films. Aujourd'hui, le studio de Burning Angels va prôner en fait tout ce qui touche au alt porn. C'est noté en gros sur leur site quand on y va, c'est The Home of the Hardcore, Punk, Goth, Rock and Emo Porn. Il est dedans, je suis obligé de le dire. Mais donc pour le coup, on y trouve à l'intérieur tout ce qu'on peut trouver sur des Suicide Girls ou sur du Ghost Girl, c'est-à-dire des filles extrêmement tatouées, qui ont un style totalement décalé par rapport à notre société contemporaine, tatouées avec des cheveux dans tous les sens, colorés, à moitié rasés, percés. C'est clairement moi le fille que j'adore. On y retrouve une nana qui s'appelle Skin Diamond, qu'on connaît plus ou moins bien si on l'aime. Donc on y trouve aussi Andy Sandimas, qui est sûrement la cinquième ou troisième fan de ma vie, je n'ai pas encore fait d'ordre correct. Il y a Aiden Ashley, Brittany Lynn, et bref, il y a plein de filles qui sont effectivement qui sont parties de Burning Angel, qui sont qu'on a retrouvées dans différents studios et qui sont à la base toutes venues du alt porn.
Après, je pense à, je sais pas moi, Belladonna ou des trucs comme ça, ou Skin Diamond même, qu'on voit dans Evil Angel ou
Voilà,
des genres de
exactement.
studios.
Et tu me fais une très belle transition parce que Evil Angel, qui rien que par le nom pourrait essayer de donner un côté alt à la chose, on peut le considérer comme du alt porn pour certaines productions, certains films qu'ils vont faire, parce qu'il y a un côté un petit peu fétiche. Il y a des actrices donc comme Belladonna ou Stoya qui tournent là-dedans. Donc pour rappel, Evil Angel, ça a été créé par John Stagliano, ex-Buttman,
Ouais.
pour ceux qui connaissent. C'est un studio qui a toujours été un peu atypique à l'époque, parce que même dans la façon dont il embauchait en fait ses réals, et donc la façon dont il est payé, il le faisait totalement différemment que des autres studios. Donc il y a un côté
Il y avait un côté
vraiment...
éthique qui sortait justement du mainstream, peut-être qu'on le connaît ça.
Voilà, mais c'est pas tout à fait du alt. Maintenant, il a eu de très bons réals, hein. Il y a eu Rocco Siffredi, il y a Manuel Ferrara qui a commencé là-bas, si je ne dis pas de bêtises. Et pour donner un genre de film qu'ils ont fait et qui reste un peu du alt porno sans vraiment, à mon sens, en être, bah, il y a les Seven Sins de James Dean, on en a déjà parlé. Ça
Ah,
reste
James Dean.
un petit peu style.
Le chouchou de ces dames, mais je sais pas si toi tu l'as vu, un des sept péchés capitaux de James Dean, Sarah?
Pas du tout. Je vois très bien qui dit et James Dean, je le follow sur Instagram.
Ouais.
J'ai connu Yastoya, mais alors je connais pas du tout. Enfin, tu sais, des films porno, j'en vois pas beaucoup. Enfin, à part, je t'avoue, moi je regarde YouPorn et Pornhub quand j'ai envie de me masturber. Donc du coup, ouais, j'avais pas du tout vu. Je sais, c'est bien d'ailleurs.
Les films sont très bien, mais on est loin du James Dean que le grand public s'attend à voir, c'est-à-dire
Ouais.
le beau gosse avec les beaux cheveux qui a l'air gentil, etc. Non, dans les sept péchés capitaux, il a la tête rasée et c'est un vrai bad boy, un maître BDSM. C'est vraiment presque du BDSM, autant que du
Oui,
alt, c'est du kink, tu mélanges tous les fétiches et tous les trucs qui sortent un peu de la norme et tu les fous dans les sept péchés capitaux et t'as James Dean, la tête rasée, qui s'amuse. Tu vois ses petits yeux pétillants de
d'accord,
malice
ouais.
là, comme un petit diablotin qui s'amuse avec toutes ces demoiselles. Et c'est très bien réalisé, c'est adressé à un public particulier.
Oui, ça reste averti comme type de film, je veux dire.
Voilà, c'est ça. Quand tu parles de James Dean et de Evil Angel, moi, ce que j'ai envie de te dire par rapport au porn, c'est que tous les codes sont repris par le mainstream. Il n'y a plus vraiment de alt porn pour moi au niveau vraiment pornographie.
Eh ben voilà, en fait c'est ça le problème, c'est que on en voit un peu trop en fait. Je parlais de Vorachus dans nos derniers enregistrements, en fait. Vorachus, ça reste. On pourrait penser que c'est du alt porn parce qu'il y a un côté vampire, un peu dark, machin et tout, mais au final, moi je le considérerais vraiment pas comme ça, parce que c'est qu'une histoire, hein, qui est là-dedans, mais à l'intérieur, les scènes et les actrices sont à 90% enfin totalement mainstream en fait. Il y a un petit peu de BDSM. Bon, il y a des scènes qui sont totalement averties BDSM et ainsi de suite, mais dans l'idée, ça reste pas du tout. C'est pas à mon sens du alt porn qu'on pourrait en voir. Il n'y a pas de filles un peu punk tatouées ou différentes. C'est pas du tout ça. Pareil, le Walking Dead Triple X parodie en fait, qui est une production de Burning Angel, donc qui est à la base d'un studio alt, et à mon sens devient un peu trop mainstream aussi, parce qu'il veut. Mais dans l'idée, ça devient logique, parce que si on reste trop alt ou trop underground, on
Ouais,
a
si on
moins
reste trop
de
cloisonné, ouais.
reconnaissance. Voilà, c'est
Je
ça.
sais pas si
Donc
c'est vraiment une question de reconnaissance. Hein. J'ai l'impression que ce qui était alt et ce qui était underground devient mainstream parce que les gens sont un peu plus ouverts et
voilà.
englobent tout ces... La preuve, c'est que tout le monde se fait tatouer et tout le monde commence à avoir des extensions d'oreilles ou des trucs comme ça.
C'est exactement ça. Et pour le coup, on a un côté plus ouvert sur la chose. Je reviens sur ce que je disais en hors émission tout à l'heure sur Andy Sandimas qui a eu une récompense pour je sais plus quel film aux AVN Awards. Elle disait effectivement, elle avait tourné dans un studio, je crois que c'était Hustler, et le réal de l'époque lui avait donné un des rôles principaux. Et c'est une nana qui est extrêmement tatouée et elle remercie en fait lors de son discours, elle remercie le réal en disant merci de m'avoir donné cette chance parce que les filles tatouées n'ont pas leur place à la base dans ce type de prod. Et donc du coup, il y a un côté mainstream qui refuse ou qui refusait, parce que c'est plus vraiment le cas, les filles tatouées ou les filles venant peut-être du alt porn. Donc c'est un côté, maintenant on en voit de plus en plus, ça devient de plus en plus sexy d'avoir une fille tatouée. Sur IAFD, on le voit, hein, toutes les filles ont leur profil avec le type de tatouage qu'elles peuvent avoir et ainsi de suite. Donc il y a un côté vachement plus découvert du corps sur ce genre de choses. Moi je l'aime, j'adore ça. Mais je trouve ça un petit peu dommage que des studios qui se considéraient peut-être comme alt porn, donc plus avant-gardistes ou plus à côté, je veux dire, du mainstream, rentrent un petit peu là-dedans ou que le mainstream vienne englober ce genre de studio. Moi, ça me déçoit un tout petit peu, mais
c'était mieux avant, quoi. T'es un hipster du porn.
Ah, c'est dur. Ah, c'est dur ce que tu viens de me dire.
Qu'est-ce que t'en penses de tous ces phénomènes-là de alt qui devient plus alt, qui est de
Moi, je pense que déjà, il y a une histoire d'appel de l'argent. Genre, tu commences à être connu, l'argent commence à venir. Et puis, je sais pas, il y a comme un truc par lequel j'imagine t'es aspiré parce que tu fais des trucs qui correspondent un peu plus à ce qu'on attend. Parce que ça génère plus d'argent. En fait, le porno alternatif, ça génère beaucoup, beaucoup moins d'argent. Donc, ça, c'est clair. Puisque qu'est-ce qui est le porno alternatif, etc. En fait, ça dépend vraiment dans quelle catégorie on vise, parce que par exemple, les gens tatoués en France, il n'y en a pas tant que ça, alors qu'aux États-Unis, par exemple, je crois que c'est 50% de la population qui sont tatoués.
Ouais,
donc
carrément.
En fait, du coup, je pense que ça, les gens tatoués aux États-Unis, ça va être beaucoup moins subversif que ça va l'être en France, par exemple.
Oui, donc, mais dans le porno, ça restait encore en marge un petit moment. Ouais. Il y a un petit moment, en fait. On est plus au niveau de Bonnie Rotten, qui est extrêmement tatouée, qui est pas un modèle alt à la base, mais qui arrive sur des productions un peu plus mainstream.
Il y a tellement de gens différents qui regardent du porno, donc je me dis.
C'est une question d'identification.
Ouais, c'est une question d'identification parce que je peux connaître des gens qui sont absolument pas ouverts d'esprit, mais vraiment pas du tout ouverts d'esprit, mais qui peuvent regarder vraiment du porno avec des gens. Enfin, aussi, c'est aussi la réception en fait, et donc du coup, de toute façon, la production se fait aussi en fonction de la demande et enfin de ce que j'ai l'impression quand même. Et donc du coup, tu peux avoir des gens qui sont absolument pas ouverts et qui vont quand même regarder du porno qui va être différent du mainstream, qui vont être excités par des nanas avec des tatous, parce qu'en fait, une nana avec des tatous, si elle reste sexy pour un mec lambda, elle reste sexy et puis basta, en fait, ça va pas changer grand-chose. Mmh. Alors que peut-être que si c'est... En fait, ça dépend comment c'est présenté, en fait. La nana, juste qui porte des tatouages, en soi, moi, perso, je trouve que ça change pas grand-chose. Mais je pense qu'à un moment donné, ça a changé quelque chose parce que justement, les nanas qui avaient des tatous pouvaient pas tourner dans des films plus mainstream parce qu'il fallait des nanas avec la peau hyper lisse, extrêmement épilée. Enfin, vraiment, c'était un stéréotype. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'à chaque fois, on change de stéréotype, en fait, finalement. Du coup, c'est de moins en moins subversif, sauf que ça peut rester subversif, en fait, pour certaines catégories de personnes, en fait, j'imagine. Mais ça, c'est vraiment aléatoire, je pense.
Encore une fois, ça, ce que je disais sur Burning Angel ou sur Walking Dead, ça reste extrêmement intime pour moi. Genre, c'est ma vision de la chose sur ce genre de choses.
Mm-hmm.
Je dis beaucoup de choses. Pour finir, sur quelques studios ou sites qui sont intéressants à regarder, donc Burning Angel, je l'ai déjà dit, je l'ai répété, il y a, moi, un des premiers films que j'avais vu d'eux, ça date pas d'hier pour le coup, mais il y avait le Hell Epic, qui était une parodie en fait de la série sur les tatouages qui passe sur le câble. Il y a aussi un très bon film du studio Razor Dolls, donc Electric Cherry, qui est très très alt, j'ai envie de le dire comme ça. Et pour le site, allez voir altporn.net, qui reste simple, efficace et qui arrive à répertorier plein de choses, plein de vidéos, plein de films, plein de très très bons articles là-dessus sur le alt porn en général et sur plein de choses d'ailleurs aussi à côté.
Ok, j'ai jamais vu aucune de ces trois choses, mais j'irai voir.
Ah, bah alors notre mission est remplie.
Voilà.
On va peut-être passer à un milieu du porno qui va te concerner, qui va te toucher un peu plus. C'est on voulait parler du porno féministe. Comme le but de cette émission-là, le cœur de notre sujet, c'était d'essayer de faire découvrir le porno qui pourrait satisfaire un peu plus de monde et qui sortirait d'une norme qui ne nous parle pas. Mmh. Il y a le porno féministe qui a, par définition, la vocation de toucher plus les femmes, non ?
Oui, par vocation, mais c'est un peu vain, moi, perso, je pense, parce que... porno féministe, si tu imagines que c'est du porno qui va plus s'adresser aux femmes, déjà, c'est juste... Enfin, ça veut rien dire, en fait, pour moi, parce que il y a beaucoup de femmes qui regardent du porno qui est censé être adressé aux hommes, en fait.
Ouais.
Moi, je pense que le porno féministe, du coup, ça va être plutôt du porno qui va être enfin réalisé par des femmes, parce qu'il n'y en a pas souvent, en fait.
Ouais, c'est vrai.
Elles sont plus rares, et être derrière la caméra, pour une femme, c'est beaucoup plus rare qu'être devant la caméra. Mm-hmm. Et donc, est-ce que ça change à la réalisation et tout ? Ça, j'en sais rien, ça dépend des gens.
Ça va dépendre des réals, parce que pour le coup, je parlais de Burning Angel, je reviens là-dessus encore une fois, mais c'est Joanna Angel, en fait, elle est réalisatrice de 80% des films qu'elle fait, en fait, dans lesquels elle va tourner aussi. Donc, est-ce que c'est pas sa vision, ça va être toujours la vision du réal sur le film et à qui il veut adresser son jugé, quoi qu'il arrive.
Mm-hmm, exactement, ouais. Voilà, je pense que le porno féministe, c'est ça, c'est enfin du porno qui est réalisé par des femmes. Qui change en fait de ce qu'on a l'habitude de voir, qui est un peu plus centré sur le plaisir des femmes en fait, un peu plus montré, etc. Je pense. Enfin, comme Dirty Diaries par exemple, voilà, la série de courts-métrages qui était sortie en 2010, je crois.
Ouais.
Et c'était une série de 12 courts-métrages et qui avait. Ça avait été monté par une réalisatrice suédoise et donc t'avais 12 courts-métrages réalisés donc par des filles, par des femmes. Montre en fait, peu importe ce que ça montrait, tu voyais qu'en fait c'était la femme qui était active dans sa sexualité, proactive dans sa sexualité, qui était enfin désirante et pas seulement désirée.
D'accord.
Du coup, ça change tout de la donne. Après, est-ce que ça excite plus ou ça excite moins, ça dépend des gens. Est-ce que ça va s'adresser aux femmes, ça va s'adresser aux hommes, ça dépend vraiment de plein de choses.
Ça dépend de la vision du spectateur, en définitive.
Ouais, en fait.
Qu'est-ce qui est attendu,
hein. Ouais, ça dépend par quoi on est excité. Ça me rappelle un truc que j'avais vu. J'avais vu une série de courts-métrages qui s'appelait Fucking XXX, qui était passé au festival Chéri Chéri. C'est un festival de cinéma gay, lesbien, trans, queer, plus. Et donc il y avait une série de courts-métrages et donc dans un des courts-métrages t'avais toutes sortes de choses et notamment t'en avais un où c'était deux hommes, c'était un film assez romantique et en fait c'est deux hommes qui se fistaient l'anus, trop vulgaire du coup.
Non, c'est parfait, dis comme
ça.
Et
à la fin en fait de la projection t'avais un mec qui commence à dire mais est-ce que c'est vraiment du porno parce que moi ça m'a pas excité. Et donc là,
ah,
je me suis dit, oh là là, j'avais envie de lui mettre une grosse claque. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui est le porno ? Est-ce que c'est quelque chose qui nous excite tous ? Mais ça ne peut pas exciter les gens de manière collective. Chacun est excité par ce qu'il est excité. Du coup.
C'est quelque chose de personnel, en effet.
Bah oui, c'est quelque chose à la fois personnel et je dirais quand même un peu collectif parce que nos fantasmes et les choses par lesquelles on est excité sont quand même formatées, d'une certaine manière, par les images, par comment on est socialisé, construit, etc. Mais on peut pas dire c'est pas du porno parce que moi je suis pas excitée parce que ça c'est tout ramené à soi déjà donc Et puis chacun est excité par des choses différentes donc à partir de là je sais plus quel était le début de ma phrase mais voilà.
On cherchait à définir le porno féministe donc je posais une question un peu ouverte pour avoir ton avis et en gros ce que j'ai compris de ce que tu me disais c'est essayer de casser d'une part les stéréotypes.
Ouais.
Donc, produit par le mainstream, je suis un homme, je te désire, je te prends.
Ouais.
Non, ça va aussi dans les deux sens. Je suis une fille, je te désire et puis je vais te prendre tout de suite.
Erika Lust, elle fait très bien ça. Moi, je trouve qu'elle est très. Pour moi, porno féministe égale Erika Lust, en fait, d'une certaine manière. Même si je crois qu'elle fait plus de queer, etc. Erika Lust, pour moi, c'est vraiment la définition du porno féministe. Parce qu'elle est vraiment une prise en main déjà la société de production, mais c'est vraiment la prise en main de la sexualité par les femmes, en fait. C'est vraiment, dans ce film, c'est vraiment ça, j'ai l'impression.
D'accord. Et ce que j'ai lu aussi un peu sur Internet, c'est non seulement il y a cette vision différente du réalisateur, mais aussi de la sexualité, montrer une sexualité positive de la part des filles qui participent au film, mais c'est aussi une sorte d'éthique aussi qui est différente de Money Money Je te paye au lance-pierre et puis il faut que tu fasses des trucs plus forts que ta concurrente pour gagner un peu plus, quoi.
Oui, des trucs que t'as pas envie de faire.
Ah, exactement. Toi, par exemple, tu nous as dit que tu tournais, tu faisais tes films. Comment ça se passe un tournage?
C'était tellement mignon. Le tournage, en fait, c'était chez moi et en fait, ça s'est fait de manière assez naturelle. En fait, les filles s'étaient déjà rencontrées et puis, en fait, comme c'est une histoire au départ, on les voit par exemple dans la cuisine, quand elles rentrent dans l'appartement, ce genre de choses. Donc, en fait, elles se sont appréhendées graduellement.
Ouais,
et
en même temps que tu faisais le film.
Ouais, en même temps que je faisais le film. Et en fait, ça s'est fait de façon naturelle et donc. Il y a quelques scènes que je voulais absolument tourner pour le cadrage, etc. Et pour des scènes d'accroche. Mais ensuite, le reste, c'était absolument elle, en fait, au naturel. Et donc, du coup, c'est elle qui ont choisi tout ce qu'elles ont fait. Et puis moi, j'étais là, en fait, pour en tant qu'observatrice qui filme, en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, c'était juste sublime et hyper émouvant. Enfin, moi, je trouve ça très très beau. J'y vois rien de sexuel quand je filme une scène de cul.
C'est vrai?
C'était la deuxième fois que je filmais ça et je voyais juste quelque chose de très beau, quoi. Déjà, esthétiquement parlant, c'est beau. Et puis, en fait, il y a une sorte d'émotion un peu. T'as l'impression de voir l'intimité de quelqu'un qu'elle t'offre. Et je trouve ça hyper, hyper gratifiant, en fait, en soi. Tu dis, bon, elles font ça devant moi, mais c'est juste cool, quoi. Enfin, c'est ouf.
Ouais,
enfin, je trouve ça incroyable.
Il y a un côté extrême, enfin, je veux dire amateur dans la vision de la chose,
ouais.
Mais qui reste un petit peu pro dans la façon de le réaliser.
Ouais, parce qu'en fait, t'es obligé d'avoir un pied.
Tu fais ce que tu veux, écoute.
T'es obligé d'avoir un pied à l'extérieur, forcément. T'es un professionnel, donc t'es censé filmer, donc tu ne dois pas avoir de réaction particulière. Genre, tiens, putain, le mec cite et tout. Bon, chose qui m'arrive pas, en fait, quand je filme. Donc,
Non, mais enfin, là où je voulais en venir, c'est le côté... Enfin, d'après ce que tu dis, tu les as laissés, en fait, t'as pas dirigé l'action
j'ai
de leur sexualité, en fait.
Non, j'ai dirigé quelque chose. Mais non, parce que j'estime que c'est quelque chose de naturel. Et je voulais vraiment filmer du vrai sexe. C'est pas quelque chose qui est joué et tout.
Oui, voilà.
Ça me manque, ouais.
C'est pour ça que je parle d'amateurisme, dans le sens, je voulais filmer du vrai sexe, je voulais filmer quelque chose qui est
le côté
naturel
amateur,
et vrai.
Qu'on peut voir
voilà.
Sur YouTube aussi, c'est
quoi.
Un peu candide.
C'est exactement ça, authentique,
oui,
voilà, c'est ce que vous cherchez.
Ouais.
Et t'as un côté, mais pour un côté pro, ça fait on en revient un petit peu. Je vais, j'espère ne pas insulter personne quand je vais dire un petit côté gonzo, en fait, dans le côté du truc, quoi.
Mm-hmm.
Mais,
Oui, en fait, c'est l'amateur par le fond et la forme esthétique qui va être beaucoup plus professionnelle. En fait, c'est
oui,
ça,
voilà.
Oui. Ouais, totalement. Et je trouve que ça... Je sais pas si ça va parler plus ou quoi, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'avais envie de faire, donc...
Voilà. Par curiosité, je sens qu'on s'éloigne du sujet, mais cette conversation, elle est trop intéressante. Comment tu castes, juste comment tu as casté ces deux filles? Est-ce que tu avais pas peur qu'il y ait un manque d'alchimie? Est-ce que tu sais qu'elles se connaissent de base avant le tournage? Tu avais déjà tourné avec elles?
Missing Gui, donc c'est une amie à moi en fait que j'avais rencontrée lorsque j'étais à Paris 8 et qui est performeuse. Je vous donnerai d'ailleurs le lien de son Tumblr.
Avec plaisir.
Donc en fait, elle m'a tout de suite suivie dans ce que j'appelle mes délires et donc elle était tout de suite à fond. En fait, je suis son travail et j'adore son travail et j'adore sa manière de penser. Donc du coup, pour moi, c'était juste, ça devait être qu'elle en fait. De toute façon, quand j'ai écrit le truc, c'était elle. Et du coup, c'est en fonction d'elle qu'on a choisi la seconde actrice. Donc, il y a eu quelques personnes au téléphone, etc. Il y a deux personnes qui sont désistées un peu au dernier moment. Ouais, mais après, bon, je comprends. Tu finis par réfléchir. Tu dis finalement, tu peux le faire. Enfin, je comprends totalement, en fait.
Ouais, ouais.
Et ça.
Comment tu recrutes, en fait, dans l'idée? Tu
passes
une annonce,
une annonce sur Twitter, en fait.
D'accord.
Voilà, c'est tout ce qui est le plus simple. Et finalement, ça finit par, en fait, la seconde actrice... Lune Milia, c'était tout simplement l'ex d'une copine à moi. Donc voilà, le truc le plus simple. Et puis elles se sont rencontrées et voilà. En fait.
Et ça a marché.
Et ça a marché, ouais. Ça a marché parce qu'en fait, Lune Milia et Missungi ont fini par faire des photos pour une autre photographe dessinatrice. Mm-hmm. Tellement leur duo marchait bien en fait. Donc
c'est cool.
Ouais, ouais. Et voilà, c'est comme ça. Je vais recruter d'autres actrices, mais c'est pas facile de recruter des actrices quand même.
On s'éloigne du sujet, mais ce qui est très intéressant.
Du porno féministe à la base. Donc, On a eu une définition à travers ce que tu nous as raconté du porno féministe. En tout cas, le porno féministe, ça remonte. C'est pas quelque chose qui est si récent que ça, en fait. Ça a quand même commencé dans les années 80, et dis-moi si je raconte n'importe quoi. Pour moi, c'est Femme Production qui a lancé qui a pas forcément lancé le phénomène, mais qui est un des piliers de ce mouvement-là. C'est expositif au niveau de la pornographie féministe. Donc, Femme Production, lancée par Candidat Royal en 1984, donc, qui avait une démarche assez pédagogue, quoi. C'était orienté pour les femmes et pour les couples. Donc, c'était vraiment dans la même optique que ce qu'on vient de dire. C'était sortir du mainstream, l'homme qui se masturbe dans son coin. C'était pour les femmes et pour les couples qui avaient envie de regarder autre chose de peut-être moins culpabilisant. Parce que regarder les films de, je sais pas, moi, Evil Angel en couple, ça peut se faire. Mais c'est pas fait pour tous les couples, j'ai envie de dire.
C'est amusant parce que dans les années 80, le porno était peut-être moins, je veux dire, ça va paraître bizarre, mais vulgaire qu'aujourd'hui en fait. Ça me semblait vachement plus propre, plus intime. Si on regarde les films des années, ça allait dans la move des années 70 qui était encore très 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 libéré.
Ouais.
Je pense que c'est, je trouvais qu'il y avait un côté moins, peut-être moins vulgaire. Mais après, je suis pas pro de ces années-là. Mais...
Je vois complètement ce que tu veux dire parce que, ouais, par rapport au travail qu'on a fait pour l'émission précédente, donc j'ai revu pas mal de films porno des années 80. Ah oui, j'ai été obligé, hein, travail de recherche oblige. Je t'entends rigoler, ça. Mais oui, c'est un boulot. Et donc, j'ai vu pas mal de films et je ressens cette impression aussi de quelque chose de peut-être plus jovial. Là, les gens s'amusaient.
Oui, c'est ça. Et c'est bizarre au final qu'il y a, c'est bizarre, c'est bien dans ce sens-là qu'il y a une prod qui a voulu faire peut-être quelque chose. J'entends plus le truc dans la vision du couple en fait. Ça, c'est intéressant dans le sens où déjà dans les années 80, je pense qu'ils voulaient faire du porno pour les hommes et uniquement cibler hommes peut-être, mais qu'il y a un côté vision du porno pour le couple et pour que le couple s'amuse devant un film, ça je peux comprendre l'idée. Ça c'est plutôt une chose qui m'attire et qui m'amuse bien d'ailleurs.
Et tu vois, quand je suis tombé sur cette définition là de femme production, je me dis mais waouh quoi, 1984, c'était des précurseurs, parce que dans ma tête le porno féministe, j'en ai entendu parler que maintenant. C'est là où j'en venais en disant que ça avait commencé dans les années 80, c'est que ça existe depuis longtemps et le porno féministe est venu à mes oreilles et à mes yeux que très récemment, dans les années 2010. Maintenant, on entend beaucoup plus parler et je me demande à quoi ça peut tenir ça, qu'il soit beaucoup plus médiatisé.
Est-ce que ça n'a pas été des actrices réalisatrices, type, je pense à Ovidie surtout, qui ont eu peut-être marre du côté mauvais traitement entre guillemets des actrices acteurs de la prod, venant de la prod, et qui ont voulu se faire quelque chose de plus centré, plus intime et plus orienté femme.
Ouais, je pense qu'il y a de ça, et je pense aussi que depuis 5-6 ans là, il y a eu un renouveau du féminisme, et je pense que du coup ça, mine de rien, ça a joué un peu.
Ouais.
Tu sais, on était un peu en stagnation, on était vraiment en train de stagner au niveau de du féminisme, et là, depuis quelques années, je crois que c'est à peu près depuis l'affaire DSK, si j'ai pas envie de faire de clichés, où il y a une médiatisation, on va dire, parce que les mouvements féministes, ils existaient déjà, mais il y avait une sorte de plus de, les mouvements féministes étaient plus médiatisés. Bon, c'est pas forcément mouvements féministes que j'adule, hein, mais en tout cas, il y a une forte médiatisation depuis DSK, du coup, peut-être que ça a relancé aussi, tout ce qui est idée de porno féministe, en fait. J'imagine.
D'accord.
84, c'est loin maintenant. Est-ce que aujourd'hui, on a parlé d'Ovidie, est-ce qu'il y a des noms qui sont un peu plus...
Moi, j'ai commencé à connaître le porno comme étant une culture porno, comme par exemple Tac Parfait qui en font une culture porno, quoi, via Émilie Jouvet, au tout début de ma vie de lesbienne, je dirais, en 2008.
D'accord.
Et en fait, c'est là où j'ai vraiment commencé à voir qu'il y avait quelque chose qui se passait autour du porno. Et c'était via Émilie Jouvet, donc qui est une photographe et réalisatrice, qui a fait deux films porno queer et lesbien. Un qui s'appelle One Night Stand et l'autre qui s'appelle Too Much Pussy. Le second, il est absolument génial. Et c'est plus un documentaire. Et en fait, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai mis le pied dedans. Et elle est moins connue, sauf que Too Much Pussy, c'est quand même vraiment un documentaire hyper intéressant. Je pense que tout le monde devrait le voir, parce que ça apporte une telle fraîcheur, un tel sentiment de libération en ce qui concerne la sexualité ou même notre rapport au corps, il est absolument génial ce documentaire. Donc,
bon, on va le mettre sur la page de notre site, histoire que les gens aillent se renseigner et aillent le visualiser.
Ouais, parce que Amy Jouet, elle est connue surtout dans le milieu lesbien ou queer et moins dans le milieu juste plus général du porno, on va dire.
D'accord.
Et enfin, j'imagine en tout cas, parce que je connais pas beaucoup des personnes hors milieu lesbien queer, j'en connais pas beaucoup qui connaissent Amy Jouet.
Ouais.
Et qui connaissent plus Ovidie, mais forcément Ovidie est nationalement connue au moins, donc.
Ouais.
Mais voilà, en fait, Émile Juvé, ouais, qui est moins connu.
Je pensais aussi, quand tu posais cette question, Zef, je pensais à Lucie Blush aussi, qui fait des trucs très intéressants. Bah, j'en ai parlé tout à l'heure, il me semble, dans les news. Lucie Blush qui fait des trucs, je trouve, assez cool et assez excitants. C'est acceptable par un très grand public, en fait, Lucie Blush. Je comprends pas que le porno féministe ne soit pas plus reconnu, parce que c'est très beau au niveau de l'image, c'est juste que la vision est différente, légèrement différente. Comme tu disais, on change d'angle de vue. La femme qui fait, la femme qui a envie d'aimer, la femme qui partage. Et je trouve ça d'autant plus excitant, en fait, que ce trip de femme objet que je balance contre un mur, qui peut avoir son charme de temps en temps, mais qui finit par être saoulant. Hein, bon, appelons un chat un chat.
Ouais, mais je pense que ça c'est très, pour moi il y a une grande différence entre, sans faire de snobisme particulier, mais il y a une très grande différence, j'ai quand même passé 22 ans de ma vie, 20 ans de ma vie à Nîmes, et entre les personnes que j'ai connues et que je connais toujours de là-bas, et les personnes qui habitent à Paris, que j'ai croisées, non plus dans le milieu lesbien queer, mais même dans le milieu que je connais quand même des personnes hétéros, et ben c'est pas du tout la même chose, donc c'est pas le même rapport au porno non plus, c'est vraiment différent j'ai l'impression. Il y a une histoire, je pense, de classe, et une histoire de, pas forcément de classe, mais de catégorie sociale, qui, pas forcément générée par l'argent, mais catégorie sociale à laquelle on appartient.
Ouais.
Les personnes avec qui on traîne, en fait, tout simplement, qui nous amènent, en fait, à aller voir un certain type de porno, qui nous amènent à parler de sexualité sans tabou, ou en parler avec moins tabou, ce qui nous mène, en fait, à un certain type de porno aussi. Du coup, je pense que c'est vraiment différent, donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont être gênées par les films de Lucie Blush, tout simplement parce qu'en fait, ça va être une femme qui le fait et que du coup, dans leur esprit, la femme, elle se prend, elle prend pas quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
Donc, ouais, ouais.
Même pour les femmes, des fois, je me dis que parfois, ça peut même gêner parfois plus des femmes, mais j'ai pas envie de faire un cliché sexiste. Mais parfois, je me dis que ça peut même gêner plus des femmes parce qu'en fait, un mec, je pense qu'il peut très bien bander devant une femme qui prend en main sa sexualité, mais peut-être qu'une femme, elle peut se trouver gênée parce que peut-être que ça va remettre en question sa position, en fait. Mais ça, je le fais d'après mes expériences et de personnes que j'ai connues. Hein.
Sinon, au niveau des sites, pas queer, mais vraiment porno féministe, parce que le queer, on va y venir. Au niveau du porno féministe, est-ce que tu as des sites à recommander? Moi, je pense à 4Chamber, directement, 4Chambered Art, qui est un site excellent. Avec un système de patronage qui permet aux acteurs et aux réalisateurs d'être payés. Donc ils font des vidéos super intéressantes qui sont à la fois féministes et queer. Et je vais mettre le lien sur la page. C'est vraiment un site très alléchant qui permet de voir les films en teasing avant de débourser des sous pour les visualiser en entier avec toutes les scènes qui font plaisir. Et moi j'ai envie de recommander ça comme site pour voir du porno féministe et queer. Tiens, en parlant de ça, attends, je profite que je t'ai sous la main. J'ai vu un article dans Barbiturix sur le film Le Baiser. Donc toi, tu l'as vu?
Ouais, je l'ai vu, ouais.
Et il passe à l'heure où on parle, il passe ce soir.
Ah, ben oui.
Il passe le premier samedi du mois sur Canal+. Et je fais un appel à tout Internet, à tous nos auditeurs. S'il vous plaît, je n'ai pas Canal+, enregistrez-le-moi. Je veux le voir. Il a l'air trop bien.
Il est pas mal.
Il est bien.
C'est bien tourné, moi j'adore Madison Young, vraiment je suis une grosse fan de Madison Young, je la kiffe, mais un truc de ouf, et parce qu'elle a joué dans Too Much Pussy d'Emily Jouvet,
ouais.
Et en fait dans une scène dans Too Much Pussy, elle pleure, et c'est la plus belle scène du film, et la plus intime d'ailleurs, donc depuis en fait Too Much Pussy, j'adore Madison Young, et elle joue vachement bien en fait, elle est géniale en fait, donc juste pour elle en fait, pour voir le film déjà à la base.
Et donc, en parlant du porno féministe, pour moi, ce qui est aussi apparu assez récemment dans ma timeline Twitter et des mots qui revenaient, et à force de suivre des gens de plus en plus pointus dans ce milieu-là, c'est le terme de porno queer. Pour moi, ce que je considère être comme, enfin, de mes yeux de néophyte, comme une sorte de sous-catégorie du porno féministe, mais j'aimerais bien que tu me fasses ta propre définition pour m'éclairer du porno queer. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du porno queer ?
Alors, donc je dirais que c'est une catégorie qui se place à côté du porno féministe. Pour moi, le porno queer, il va plus inclure en fait des sexualités qui sont différentes. Par exemple, il va casser plus la binarité homme-femme, ouais. Tandis que le porno féministe, je dirais, en fait, c'est centré sur le plaisir aussi des femmes. C'est un peu comme une sorte de sexualité paritaire, en fait. Ouais. Je dirais inclure la parité en fait dans le porno. Tandis que le porno queer, c'est un peu casser tout ça, en fait. C'est tout faire exploser, et puis il présentait des sexualités et des pratiques qui sont totalement diverses. Vraiment brouiller les pistes sur plein de choses, sur les pratiques, sur vraiment une sacrée diversité. Et donc, du coup, avec une vision de la société qui est beaucoup plus éclatée, en fait, et pour moi beaucoup plus intéressante et aussi beaucoup plus subversive. En fait, c'est ça pour moi le porno queer, en fait.
Est-ce que ça a un rapport, parce que je vais encore faire le gros noob, avec ces histoires, entre guillemets, de cis, trans, d'identité de genre. On m'a expliqué il n'y a pas très longtemps le terme d'identité de genre.
Ouais. Je pense que c'est un peu ça. Par exemple, je pense que dans porno queer, on peut aussi mettre le film de Cornet Trouble. En fait, c'est vraiment représenté à la fois des personnes qui sont trans, mais des personnes aussi qu'on voit pas souvent, donc de couleurs de peau différentes, plus de black, peut-être plus de rebeu, aussi des personnes qui sont pas forcément minces. Donc Cornet Trouble, par exemple, elle sait très très bien faire ça parce que justement, elle a réussi à faire des films avec dont elle tourne avec elle-même. Elle est pas du tout mince, et c'est cool enfin de voir des nanas en fait qui s'assument comme ça dans leur sexualité, dans leur corps en fait, je dirais plus. Et du coup, pour moi aussi, ça c'est vachement représentatif. Enfin, c'est vraiment aussi l'essence du porno queer, c'est que ça va essayer en fait de vraiment d'être extrêmement inclusif en fait.
D'accord.
Et c'est ça qui est bien, et je pense que justement la catégorie cis et trans, je pense que tu devras mettre une définition, je pense, mais...
Oui, bah, justement, bah, tant qu'on y est, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus, justement, si c'est
trans ? Alors, les personnes trans, c'est les personnes trans qui s'identifient, qui ressentent... J'ai du mal à parler pour elles ou pour eux, mais qui s'identifient, en fait, du sexe par lequel ils ne sont pas nés, en fait, tout simplement. Donc, ils peuvent être transgenres ou transsexuels, mais ça dépend des personnes. Donc on dit trans, et puis les personnes cis, c'est les personnes dont le genre correspond au sexe, en tout cas dans le ressenti. Mais après, je pense qu'il y a tellement de nuances en fait dans le genre que c'est un peu éclaté. Et je pense que le porno queer de toute façon, ça représente un peu ça aussi. Ça peut être des nanas qui sont pas forcément trans, mais qui sont pas binaires dans leur façon d'être, ou qui se disent plutôt gender fluid ou ce genre de choses, quoi.
Ok.
Voilà.
C'est amusant. J'ai l'impression en fait que plus parce que le porno queer, moi, c'est un truc que j'entendais aussi sur le net et ainsi de suite, sans vraiment mettre de mots dessus. Et au final, j'ai l'impression d'avoir une espèce de une vraie niche qui s'est créée sur un truc où tout. Enfin, il y a un côté où les gens ne se ressentaient pas ailleurs, en fait. Un côté vraiment plus de niche. Mais pour le coup, j'accroche beaucoup sur le côté quand tu parlais des femmes qui acceptent plus leur corps comme elles sont.
Ouais.
On sort encore une fois des archétypes du mainstream qu'on peut connaître. Mmh. Mais le 6, j'arrive vraiment pas à appréhender le truc.
Qu'est-ce que ça pourrait être, par exemple? Moi, je suis un homme et je suis né homme, donc je suis un homme cis.
Ouais, exactement.
C'est-à-dire que si je voulais, si je suis né homme mais que je veux être une femme, je suis un homme trans ou une femme, je sais pas.
Femme trans.
Femme trans. Je suis une femme trans.
Le trans, ok, je vois tout à fait, mais effectivement, le cis, en fait, qu'est-ce qui fait la différence entre un hétéro et un cis aujourd'hui?
Ah bah tu peux être hétéro cis et hétéro trans.
Bah oui,
c'est la même chose. D'accord. Oui. Okay.
Ah non, c'est pas la même chose.
Non, mais il y a pas. Enfin, qu'est-ce qui fait? Alors, si moi je suis né homme et que j'aime les hommes, je suis pas cis.
Bah si t'es cis, mais t'es homo.
D'accord. T'es un hétéro cis homo.
Voilà.
Ok, je comprends le truc.
T'es juste cis gay, quoi.
C'est ça.
Moi, je suis cis lesbienne.
D'accord. Voilà. Ça a été un terme qui a été ajouté entre guillemets, préfixe.
Il a été ajouté il y a peu de temps. En fait, je pense que c'est vraiment pour marquer le vraiment marqué en fait le...
dans la société. En fait.
Ouais, le fait que les cis sont quand même privilégiés dans la société, de par en fait, forcément les trans, les personnes trans sont absolument pas privilégiées dans la société, de par leur accès aux papiers, à l'état civil, la psychiatrisation par laquelle les personnes doivent passer, etc. Enfin, tout un truc. La représentation, le regard, etc. Puis aussi le nombre de personnes qui sont violées, qui sont abattues, c'est assez énorme en chiffres, et aussi la précarité en fait des personnes trans, qui est vraiment spécifique aux personnes trans. C'est une autre forme, c'est ce que j'appelle l'intersectionnalité en fait. C'est t'as les femmes lesbiennes, puis t'as les femmes lesbiennes black qui vivent pas la même chose que les femmes lesbiennes, et les femmes trans ne vivent pas la même chose que les femmes en fait. D'accord. Et les femmes trans ne vivent pas la même chose que les hommes. Enfin,
oui,
voilà.
Évidemment, il y a un côté très très sectionné en fait là-dedans qui.
Ouais. Mais ce qui est important en fait pour bien montrer que les problématiques et les problèmes vécus et rencontrés par les personnes sont différentes en fait, tout simplement.
D'accord.
Voilà.
Et pour revenir au porno, hein, parce que...
ouais.
Non, mais c'était intéressant. Je pense que c'était important qu'on précise les termes parce que on les voit employés de plus en plus souvent, mais la preuve, c'est que je ne les comprenais pas totalement. Voilà, donc c'est toujours bien de refaire un point là-dessus. Mais pour revenir au porno, justement, tu parlais de Courtney Trouble. Et j'ai vu le trailer du film que Courtney Trouble, d'un des films que Courtney Trouble avait soumis en compétition, qui s'appelle Fucking Mystic.
Je pense que
c'est assez représentatif de ce que peut être un porno queer.
Ouais, totalement.
Et je vous invite, auditeurs, à aller regarder ce trailer, parce que c'est assez jovial, c'est assez marrant, parce que il y a des trans, il y a des femmes cis, il y a des femmes trans, il y a beaucoup de gens différents qui ont une sexualité différente, et pour moi c'est ça le queer, c'est quelque chose de pas usuel, qui tout le monde se rencontre au même endroit en fait, dans le même film.
Oui, exactement, ouais, je pense qu'il y a de ça, ouais.
Et donc, Courtney Trouble, très bon réalisateur de ce genre-là. Et,
réalisatrice,
autant pour moi, réalisatrice de ce genre-là, qui a sa façon assez très très visuelle de représenter les choses.
Mais c'est vrai que Courtney Trouble, elle a ce truc très jovial, très drôle et tout. Et je mettrais aussi Zara Stardust, parce que j'ai vu que... Tu voulais en parler au début, mais t'en as pas parlé. Mais alors, elle, je la kiffe, elle est géniale.
Le trailer que j'ai vu du film qu'elle avait en compétition m'a complètement fait halluciner. Et merci d'en reparler, parce que ça avait l'air excellent. Ça partait dans tous les sens. Ça a l'air très, très cool.
Ah ouais, c'est drôle et c'est joyeux. Et puis, c'est vraiment fait dans la bonne humeur et tout. C'est génial, ce film, en fait. Alors, on a fait un autre que j'ai vu au Festival de cinéma porno à Berlin, il y a 2 ans. Où en fait elle se masturbe en fait, et donc c'est elle, je sais pas si c'est elle qui se filme, en tout cas elle se masturbe, et en même temps en fait il y a sa voix en off qui raconte sa vision du porno, du féminisme, du corps, et cette vidéo, j'ai jamais pu la retrouver quelque part, mais alors ce film je le trouve aussi assez libérateur parce que c'est filmé un peu comme un documentaire, parce qu'il y a sa voix off, elle explique des choses, etc., et en même temps elle se masturbe et il y a quelque chose qui est vraiment... ça va ensemble, en fait. Ce court-métrage, il est juste fabuleux aussi. Et Zara Stardust, du coup, je la mettrai aussi dans le porno queer. Elle a vraiment une vision spécifique des choses. J'adore ce qu'elle fait, ouais.
Je pensais aussi à Shine Louise Houston.
Ouais, elle est géniale aussi.
Tu connais un peu?
Ouais, elle a fait les Crash Pad Series. Je sais pas si vous connaissez l'histoire, mais grosso modo, l'histoire des Crash Pad Series, c'est-à-dire qu'il y a une clé d'une chambre dans un appartement, en fait...
Ouais.
À San Francisco, et en fait, généralement, c'est des lesbiennes et des bi, hein. Et il y a cette clé, et en fait, il y a très peu de personnes qui ont eu cette clé. Et en fait, à chaque fois qu'elles ont la clé, les deux personnes, plusieurs personnes peuvent aller dans cette chambre et faire l'amour.
Mm-hmm.
Baiser. Et donc voilà.
C'est pas grave, je le retiens pas, celui-là.
C'est vraiment le départ narratif de ça. Et puis Shine with Houston, ce qui change aussi, c'est que c'est enfin une nana black, il n'y en a pas beaucoup, qui réalise. Et puis elle a aussi cette... c'est assez américain, en fait, cette joie de vivre ou ce positivisme, en fait, qui manque un peu en France, en général. Et enfin, c'est assez génial aussi. Moi, j'aime bien ce qu'elle fait. Ça ne m'excite pas forcément et tout, mais il y a par exemple Gisley dans ses films. Et Gisley, c'est aussi une actrice qui se convient comme une actrice queer, qui est assez gender fluid, en tout cas, c'est, je crois qu'elle se définit comme ça. et qui est géniale aussi dans sa vision des choses. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est une actrice et elle est géniale dans son rapport intime aux choses et tout. Enfin, faut la suivre elle aussi, Gisli, parce que moi je l'adore aussi.
D'accord.
Bon.
Donc on a déjà recommandé quelques sites. Tu reparlais de Fort Chambers pour que tu remettais plus en lumière pour le queer plus que ouais. pour le porno féministe.
Ouais.
Il y avait donc les Crashpad Series aussi. Ils ont un site crashpadseries.com. Il y a aussi Queer Porn TV.
Ouais.
Qui est un site qu'on mettra sur la page internet du podcast. Et donc on invite tout le monde à aller se renseigner, à aller cliquer et à aller voir quelque chose de différent. Et peut-être que vous vous rendrez compte que ça vous correspond plus que ce que vous avez vu jusqu'à maintenant.
C'est vraiment. Enfin, je regardais en même temps que vous parliez là, mais c'est vraiment un côté. Non, mais c'est super intéressant en fait. C'est un côté extrêmement intimiste. J'arrête pas de dire ça, mais c'est vraiment différent de tout ce qu'on peut voir. Genre même quand je parlais d'alt-porn, au final, je me rends compte, j'ai l'impression d'avoir parlé de porno mainstream par rapport à ce que vous parlez là en fait. Et c'est vraiment génial. Il y a des trucs. Enfin là, je regardais du coup Queer Porn TV en même temps, et il y a des scènes qui sont absolument fantastique dans la façon de le faire, quoi. C'est vraiment différent. Voilà, c'est tout.
Allez, c'est cool, on a déjà converti une personne.
Ah ouais.
clairement, ouais, c'est vraiment, c'est une autre vision de la chose qui est superbe. Bien, quoi. Ça tue, pour le dire simplement.
En dehors de ces différentes cases qu'on a évoquées, que sont le alt porn, que sont le porn féministe et le porn queer, il y a quand même des réals qui appartiennent dans un sens à l'industrie mainstream, mais qui ont une vision qui est différente de celle que tu citais au début de l'émission, à savoir mainstream égale bon, éjecte facial, c'est terminé, on arrête tout. Moi, il y a un exemple qui me vient en tête, c'est quand même Peter Egre, je ne sais pas très bien prononcer le norvégien, et donc qui est à l'origine du site Egre Art, donc Hegre-art, et qui réalise des films qui sont vraiment portés sur l'attention sur le corps, sur les corps les uns par rapport aux autres. Donc on sort totalement des canons du mainstream actuel, quoique au niveau des corps, bon, ils appartiennent à... Ce sont des beaux hommes musclés et des jolies femmes assez fines.
Plutôt, parce que j'allais dire, il reste quand même un archétype assez simple.
Enfin, il reste l'archétype.
Dans le corps.
Il reste cette obligation du beau, mais la réalisation est différente en cela que la plupart des vidéos que j'ai bien aimées, pas toutes, hein, chez lui, il n'y a pas forcément d'éjaculation à la fin. Tout ce qui compte, c'est la beauté des corps et l'excitation qui monte. C'est la limite entre l'érotisme et le porno, en fait. C'est M6 avec un zizi qu'on voit en gros plan. Comment décrire ça? C'est assez sympa. Bah d'ailleurs, je suis bête, je me suis un peu spoilé, je voulais en parler dans la case de l'oncle porn, mais je reviendrai là-dessus.
On passe à la case de l'oncle porn tout doucement. Moi, je vais rester, je vais revenir dans le mainstream alt porn. Je vais l'appeler ça comme ça maintenant, dorénavant. je vais rester sur du Burning Angels avec Vampire Cheerleaders XXX.
Déjà, j'aime bien le titre.
Ah, mais bien sûr, ça reste très très simpliste. C'est du alt porn, donc de Burning Angels. On y retrouve Draven Star, JCD, Joanna Angel. C'est un petit truc assez sympa, une espèce de. Je sais pas si vous connaissez. La comparaison va être dure. Désolé. Monster High, vous connaissez ou pas?
Pas
non.
D'accord, c'est un dessin animé pour enfants, c'est horrible. Pourquoi j'ai fait cette comparaison? C'est un espèce de lycée en fait où il y a des
Monster High, oui, je vois très bien.
Voilà, ouais. Exactement. Donc il y a un petit peu de cette idée là. Enfin, moi je l'ai vu comme ça, avec des beaux modèles alt porn, tatoués, percés, tout ce qu'on aime. Et voilà, moi j'aime beaucoup ce style là et je conseille ce petit film là. Alors, et toi, Eo, tu vas nous parler de quoi?
Du coup, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Donc, sur le site Hegre Art, mon accent norvégien est complètement à chier. Mais il y a une vidéo qui s'appelle Bondage Femdom Massage, que je vous invite à regarder, et où un homme à la très belle stature se retrouve allongé sur une table, et une maîtresse en sous-vêtements en cuir l'attache, les bras, les jambes, commence à le caresser. Et donc on voit bien les mains la maîtresse en cuir qui parcourt le corps de son supplicié. Et donc, le massage est beau et excitant, hein. Il faut dire le mot. Et donc, qui s'occupe de son bonhomme avec une douceur et une lenteur limite horrible. C'est de la torture. Mmh. Et la vidéo s'arrête. Et justement, ce que je disais tout à l'heure, personne n'a joui. Enfin, si, la fille. Mais l'homme a toujours le sexe dur et élevé au ciel, et tu sens les contractions dans son corps.
Ah ouais,
il y a un côté
ça.
Très...
Et donc justement, il y a la frustration du BDSM, pas la frustration, si, la frustration quand même.
Totalement.
C'est, ouais. C'est une sorte de massage punition, et cette vidéo, je la trouve super bien foutue, parce qu'elle est à la fois excitante, elle est à la fois un petit fétiche cuir et soumission, qui est assez cool en elle-même, et je vous conseille d'aller la voir, c'est mon petit conseil de regardure, j'ai beaucoup aimé cette vidéo.
Eh bien, okay. Merci, c'est une très bonne chose. Est-ce que tu aurais un petit conseil à nous donner, Sarah? Un petit conseil vidéo pour le mois?
Alors, je sais pas si c'est en ligne, mais c'est un film qui m'a particulièrement émue quand je suis allée au Festival du cinéma porno à Berlin, octobre dernier. C'est un film de Light Thousand, c'est une production australienne.
Ouais.
Et en fait, le film, ça s'appelle Momentum, et j'avais récupéré le DVD, mais je l'ai paumé. Et en fait, le scénario, il est assez, enfin, il n'est pas génialissime, mais il y a une scène de sexe entre deux nanas qui est fabuleuse. J'avais l'impression de voir ma propre sexualité à l'écran. C'était ouf, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Et en fait, les deux nanas, elles avaient des... Moi, je suis particulièrement attirée par les bouches et les doigts et les regards. Et mm-hmm. Là, c'était absolument bien filmé. Et c'est hyper authentique, justement, parce que à un moment donné, en fait, ça m'a marqué. Une des deux nanas donc pénètre l'autre nana, et puis à un moment donné, elle enlève son doigt, elle se gratte un peu la hanche, elle dit oh sorry, et puis elle remet ses doigts, et c'était tellement authentique.
Excellent.
Ouais, j'ai trouvé ça génial, ce truc que tu vois jamais, et puis en même temps, elle était hyper intense, tu sentais la passion, quoi. C'est ouf, cette scène, elle m'a vraiment marquée, et en plus, elle est pas disponible nulle part, mais je pense Et c'est possible d'acheter le DVD, ou ce sera possible d'acheter le DVD. Ça coûte pas grand chose en plus, je crois. Donc, je vous filerai le lien, mais ce film, il est juste génial, quoi.
Pour le coup, j'en remets une couche, mais parce que je suis en train de regarder le site de X Confessions. Ouais. Et je vois qu'en fait, Erika Lust a fait une petite parodie de Mad Men
Porn. Trop bien.
Et en fait, je suis en train de me dire que je vais plonger dedans, et j'en parlerai sûrement à la prochaine émission. Voilà,
ouais,
c'est juste ça, en fait. Il y a un côté très très cool là-dedans. Je viens de tomber là-dessus, j'ai les yeux écarquillés, et voilà.
Et oui, des parodies, il n'y en a pas que dans le mainstream.
Et oui, et moi, comme j'adore ça, je vais plonger dedans très facilement.
Ah, c'est bien.
Voilà.
Ok.
Eh bien, merci Sarah d'être venue avec nous dans cette émission un peu foutraque. On est parti dans tous les sens, mais c'était super cool de t'avoir.
Merci à vous.
Est-ce que tu nous as parlé de tes actualités, justement. Tu as fait un film et tu veux en tourner un deuxième. Est-ce que tu veux en parler un petit peu plus avant de se quitter?
Tout simplement, c'est que autour du 11 mai, je vais lancer un projet Kiss Bang Bang pour pouvoir ramasser de la thune pour faire les prochains.
D'accord.
Du coup, et donc voilà, et donc je cherche aussi des actrices parce que j'aimerais tourner le prochain en juillet.
Ouais.
Et voilà, et puis ouais, si je peux mettre un mot sur le film, la série de court-métrages que je vais faire, en fait.
Vas-y.
C'est vraiment une série sur les transports amoureux, en fait. Donc celui que je suis en train de faire, il s'appelle Fille du Calvaire République. Et en fait, donc la plupart des pornos que je vais faire sont assez autobiographiques. En tout cas, il y a une part d'autobiographie, et ça va être sur le fait que des petites histoires, en fait, comme ça, une rupture, une rencontre, un souvenir, etc. Amoureux, passionné, avec du sexe dedans, en fait. Et c'est vraiment, c'est pour ça que ça s'appelle un peu une série de courts-métrages porno de transport amoureux, parce qu'en fait. Chaque film, en fait, aura pour titre une station de métro, une gare, une station de bus, quelque part sur notre ville. Enfin voilà, c'est la série que je vais faire. Voilà.
Ok. Tu peux nous lâcher ton pseudo Twitter ou les infos des réseaux sociaux sur lesquels les gens pourraient te suivre, par exemple.
Alors c'est Sarah Bicompte partout. Tumblr, Instagram, Facebook, Twitter.
Okay.
Et sinon, j'ai un Tumblr qui s'appelle Importment. C'est Importment, mais avec porn dedans.
Okay.
Sur lequel, en fait, je mets, j'ai mis des captures d'écran du cours, en fait, que je suis en train de monter.
Ok. Voilà. C'est cool si on veut en savoir plus.
Ouais, ouais. Donc, oui, de toute façon, je mets toujours des trucs, en fait. Je nourris souvent, en tout cas, le Twitter et le Facebook sont souvent nourris. Et ouais. Plus Twitter, en fait. Donc, voilà.
Ok. Et on va aussi remercier Zef. Merci, bah, Zef.
Merci à toi, merci à vous. C'est une très bonne émission sur laquelle j'ai appris énormément de trucs et je suis très, 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 je veux dire, très excité en fait par la suite des événements.
Ah, tu vas passer la nuit sur les sites en fait.
Bah, je pense que je vais pas dormir beaucoup là. Mais...
Et on remercie aussi et surtout nos auditeurs qui font de nous ce que nous sommes. Merci, public!
Merci, on vous aime. On vous aime
très fort. Et j'espère que l'émission vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses comme Zef et que ça vous aura donné envie d'ouvrir vos horizons.
Ouais.
Et aussi, on va dire merci à Radio Kawa, qui nous produit, qui fait un excellent boulot avec nous, sans qui nous ne pourrions pas exister. Et un spécial thanks.
On remercie leur patience aussi, surtout.
On remercie leur patience avec nous et on remercie Fox. À la technique, j'espère que ça se ressentira dans l'épisode en ligne, qui a fait un gros travail avec nous. Merci Fox,
ouais,
on te fait des bisous.
Merci Fox de ta patience aussi et de ta disponibilité, ce sera dit ici.
Ok, et je vous remercie tous, je vous souhaite une très bonne soirée. Allez mater, si vous avez Canal+, le baiser de Ovidie qui passe ce soir. N'hésitez pas, il paraît que c'est super, c'est Sarah qui l'a dit.
Ouais.
Allez, on vous fait des bisous et on se dit à la prochaine, au mois prochain.
Allez, ciao, ciao à tout le monde.
Bye
ciao,
bye.
Salut.